les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista. On y va. Très heureuse de vous retrouver, chers auditeurs et auditrices, les immigrés dans le monde entier qui peuvent être demandeurs d'asile, chercheurs de refuge, chercheurs du bien-être, en quête de papiers ou titres de séjour dans un pays donné, vivent pour la plupart dans des camps de réfugiés qui ne répondent pas forcément aux standards minimums d'accueil et sont souvent marginalisés. On y trouve des personnes seules, des familles composées, des femmes enceintes et avec enfants qui n'espèrent rien d'autre que sortir de cette misère. En dehors de la régularisation, du gîte et du couvert, ont-ils vraiment besoin du bien-être intérieur pour se reconstruire? Pour en parler, nous avons rencontré une Française en mission sur l'île de Samos en Grèce. Nous aurons certainement le plaisir d'y aller là-bas un jour. Mais l'émission se déroule ici en France et a pour thème « S'aimer l'espérance dans les camps des réfugiés ». Notre invitée ce soir s'appelle Karine Salomé Neveu. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes française, laïque consacrée dans la communauté de l'Agneau rattachée au diocèse d'Avignon. C'est tout pour votre présentation?
Oui, tout à fait. C'est l'évêché d'Avignon qui m'envoie chaque année en mission. Et c'est ma famille spirituelle, c'est la communauté de l'Agneau, spiritualité dominicaine. Voilà. Et je suis originaire du Loir-et-Cher à la base.
Et actuellement, vous êtes dans quel camp comme ça?
Alors là, je reviens de 2 jours, j'étais au Liban, donc c'était une mission particulière parce que j'étais tout autant auprès du peuple libanais qui souffre malheureusement beaucoup en ce moment, mais aussi de la population syrienne, où il y a beaucoup de camps syriens, comme on le sait non, au Liban actuellement. Donc j'étais un petit peu sur ces deux profils de population.
Et vous êtes envoyée par le diocèse d'Avignon, c'est ça?
Oui, tout à fait. Chaque année, entre 8 et 9 mois. Et après, j'ai 3 mois en France pour me reposer et refaire les forces, retrouver les fonds nécessaires pour la prochaine mission. Et voilà.
Et à part le Liban, la Syrie, la Grèce, vous avez fait quel pays?
Alors, moi, ça fait 24 ans, que j'enchaîne les missions. Donc, j'ai une formation, en fait, dans la solidarité internationale, en sécurité alimentaire. Donc c'était mon métier avant d'aller travailler dans les camps de réfugiés, mais plus avec des organismes, des ONG, voilà, dans le monde de l'humanitaire en tant que professionnel. Et après, jeune convertie au christianisme, à l'Église catholique, en fait, j'ai fait le constat que dans les camps, on apporte beaucoup de choses, beaucoup de matériel pour le corps, mais la partie humaine, fraternelle et spirituelle sont quasi absentes. Donc en lien avec, bien sûr, en discernement avec mon évêque et ma communauté, j'ai arrêté de travailler comme professionnelle de l'humanitaire. Et maintenant, depuis 2015, j'enchaîne des missions pour donner ces dimensions fraternelles, humaines et spirituelles dans les camps de réfugiés. Donc j'ai fait l'Irak, 2 ans, le Soudan du Nord, 2 ans, le Soudan du Sud, qui a été écourté à cause du Covid. L'année dernière, donc, j'étais en Grèce, je vivais dans le camp, à l'intérieur du camp sur l'île de Samos. Et cette année, j'étais donc au Liban.
Ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Nulle part ailleurs que dans ta présence, il fait beau vivre. Nulle part ailleurs, c'est pas d'ailleurs des bons moyens alliés.
Chama.
Lelo fungola ngai miso nana mona kembo namona bilaka na yo makambo mineno bumbilinga namona musala yo sala ne kuluswe osikola ngai na masumu nani akosalela ngai
Et justement, lorsqu'on rencontre des réfugiés ou des personnes migrantes en situation irrégulière, en situation de pauvreté, le premier réflexe, c'est d'abord leur mettre à l'abri, leur apporter de la nourriture. Mais vous, c'est assez quand même particulier, vous apportez la fraternité. C'est-à-dire, expliquez-nous ce que vous faites.
Bah, en fait, c'est quand on a tout perdu, quand on est au fond du trou, que ce soit suite à une catastrophe naturelle, un conflit armé ou un exode économique. En fait, quand on est en état d'urgence, la situation d'urgence, on a besoin de choses pour survivre. On a besoin donc de matériel. Mais les personnes vont souvent réaliser leur situation en situation de post-urgence. Après, être en sécurité alimentaire, on sait qu'on a un toit, on a de l'eau potable et voilà. Eh bien, à ce moment-là, on réalise la situation. Et de voir l'expérience en fait auprès des gens que je côtoie, et en fait ils ont besoin aussi pour rechoisir la vie, pour dire que c'est encore possible et d'être écouté, d'avoir l'espérance, d'être capable de dire allez c'est encore possible. C'est vraiment donner cette force de la vie et leur dire t'inquiète pas, c'est pas fini, on y va, on y croit, on est avec toi. Et donc c'est être avec et pas faire des choses pour les gens, c'est vraiment être au milieu.
Mais est-ce que ça marche?
Alors, je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, de voir tous les fruits qu'il y a, et c'est suite à leur demande. Moi, c'est une personne, une fois en Irak, m'avait dit, on en a marre de recevoir des choses, ce dont on a besoin, c'est d'espérance, c'est de croire qu'un jour, c'est possible, on pourra rentrer chez nous. Donc ça, c'est le cri de personnes que j'entends sans cesse. Et de voir depuis ces années, ne serait-ce que visiter les personnes dans leur tente, être au milieu d'eux quand je vis au cœur des camps, ou serait-ce d'une salutation, partager un repas ensemble. Les Syriens, ils disaient, vous êtes la première personne à oser s'asseoir avec nous dans notre tente pour partager un thé. Et ne serait-ce que ça, c'est énorme. C'est vraiment leur offrir l'amitié et la compassion, et donc être frères et sœurs en humanité. Ne serait-ce que ça, ça leur rend leur dignité en fait.
Et vous parlez plusieurs langues? C'est-à-dire quand vous allez en Syrie, vous parlez quelle langue? Et quand vous allez par exemple au Soudan, au Liban, alors, parce que tous les pays ne sont pas francophones.
Non, c'est sûr. Bah, le Liban, c'est pas mal. Mais,
pas mal, ouais.
Mais sinon, moi, je parle français forcément, l'espagnol et l'anglais couramment, et je me mets à l'arabe. Après, l'arabe soudanais n'est pas le même que l'arabe libanais, que l'irakien, mais bon. Mais on se débrouille, et puis l'Esprit Saint fait le reste.
September, when my God-given little became a little older, oh, goodbye, see my broken heart. Hold on to your teardrops, you got a long way to go. Did you get older doing nothing today? Don't you wanna stop complaining? If one is easy, then hard is two. No one knows where you're heading to. Once my private collection always better than you.
trying to make it better. My heart is waiting for a new you, and there is no other option on the schedule. Love like I should never die with years. Once you start, it can't ever go backwards. Cause the darkest one, the brightest too. No one knows where we're headed to. No matter what it takes, never give up on you. Oh, I want you to change it all. I'm gonna make it better. No consolation prices.
Et quand vous arrivez sur place dans les camps, vous dormez là-bas ou bien vous dormez dans un autre endroit et puis le matin ou je sais pas moi toute la journée vous passez dans les camps?
Ça dépend vraiment des pays. En fait, en Grèce, on a fait le choix. Je suis toujours envoyée au service d'un partenaire local qui est souvent en église. Donc je suis pas toute seule. Je suis envoyée par un organisme français soutenu par mon évêque, et je réponds à un partenaire local en église. Donc en général, c'est ce partenaire local qui m'accueille. Quand c'est possible de perdurer dans les camps, au niveau sécuritaire, je le fais, en accord bien sûr avec le partenaire local. Et si c'est pas possible, parce que les camps, c'est aussi des lieux de grande insécurité, femmes consacrées, parfois seules, faut pas non plus jouer avec le feu, donc ça dépend vraiment des circonstances. En Grèce, c'était possible, à Djouba, c'était pas possible. Par exemple, au Soudan du Sud. Parce que c'était grand camp, c'est des camps de 80 000 personnes, 60 000 personnes. Et au niveau sécuritaire, on sait qu'il y a 95% des femmes qui se font violer dans les camps. Moi, seule française, européenne, blanche, l'idée, c'est pas de devenir une réfugiée en plus, c'est vraiment d'être un soutien. Donc, il faut aussi que je puisse avoir un lieu de ressourcement et parfois, suivant les conditions. Moi, j'ai pas la résistance non plus des réfugiés qui ont une capacité de survie. Donc, en tout cas, c'est vrai que quand j'essaye, et puis on voit que quand je suis dans le camp, le matin, les gens qui passent, ils savent mes temps de prière, etc. Donc, les gens passent et ils me disent bonjour, comment ça va, Sistou, ce matin? Donc, c'est vrai que ça, on construit et puis on oublie. Moi, j'oublie complètement, je suis dans un camp, en fait. Je suis au milieu de mes frères et sœurs, et puis je fais pareil qu'eux, hein. Je vais chercher avec mes bidons d'eau au point MSF, mon eau potable. Et en même temps, je suis le soutien, je suis là. Ils savent que je suis là, et puis là, ça ne cesse de frapper à la porte. Est-ce que tu veux bien prier pour moi? Est-ce que tu veux bien? J'ai besoin de toi pour aller pour des. Ça peut être des démarches administratives, ça peut être plein de choses, plein de soutien d'autres, divers et variés. Mais c'est être là, être avec.
Karine, vous savez bien que dans les camps de réfugiés, on trouve toutes sortes de croyances. Donc il n'y a pas que les catholiques qui sont là, il y a d'autres religions aussi, il y a aussi des gens qui ne croient pas. Comment arrivez-vous à les approcher?
Alors c'est tout simplement par l'appareil, hein. C'est quand on frappe la... Moi l'idée c'est pas d'aller annoncer Jésus à tout le monde, c'est pas l'objectif, c'est d'être là avec tout le monde, quelle que soit leur confession, leur culture et leur éducation. Et la compassion elle est universelle, et autant les familles afghanes, on allait partager un repas dans leur tente, ils venaient, on partageait autre chose, un temps fraternel, c'était l'anniversaire d'un enfant, ils m'invitaient. Après il y a des choses plus concrètes, j'ai permis à ce qu'on construise une petite tente pour donner une école informelle dans le camp pour les enfants afghans, par exemple la communauté afghane, et pour la promotion des femmes afghanes. Et ça, c'est des actions mais qui sont secondaires, mais qui sont nées grâce à l'amitié avec ces familles. Et puis quand on est croyant, Il n'y a qu'en Occident qu'on n'a pas Dieu. Et partout, sur toute la planète, tout le monde a une religion, en fait. Et donc, les familles afghanes, on a beaucoup partagé sur nos cultures et sur notre religion et ce qui nous rapproche, mais aussi, voilà. Donc, on essaie de construire ensemble sur les points communs, mais pas forcément d'aller chercher sur ce qui met en désaccord, mais au contraire. Moi, une femme, un jour, syrienne, elle m'expliquait comment elle priait son chapelet. Elle m'a dit, et toi, comment tu fais ? Donc, il y a des belles choses qui sont aussi importantes, et cette dimension spirituelle. Quand on a tout perdu, les gens, ils ont besoin d'avoir cette dimension pour eux, pour se reconstruire, quelle que soit la confession. Il y a plus de respect pour des gens croyants, quelque part. Ils ne comprennent pas. Enfin, il y a beaucoup dans des cultures, dans les pays du Sud, comme on dit. On ne comprend pas si on n'a pas de Dieu. Alors, pour un occidental, c'est incompréhensible, à l'inverse. Mais pour la 90% de la planète, en fait, ce qui n'est pas normal, c'est qu'on n'ait pas de Dieu. Donc, quelque part, quel que soit le nom derrière, eh ben, on est frères et sœurs, en fait. Et moi, j'ai vraiment reçu énormément de bienveillance de mes frères musulmans, que ce soit les Syriens, que ce soit les Kurdes, que ce soit les Afghans, que ce soit les chiites, à côté de, dans la Bekaa en Liban. C'est vraiment... ils m'ont toujours très bien... Enfin, une bienveillance. Non seulement accueilli, mais protégé dans le camp. Les Palestiniens, par exemple, aussi. Une très belle amitié.
Pour toi. Rastafari Centennial, each and every one of us. Chant a psalm a day. Good times I bring you.
Et pour terminer, vous aimez ce que vous faites ?
Ah, je pourrais jamais arrêter. C'est quand on voit le beau, que parce qu'on est dans les zones de ténèbres et de grandes souffrances, mais on voit l'action aussi, l'action que à travers ma foi, bien sûr, mais de voir comment des miracles se font sans cesse à travers ces missions. Et quand on se donne un peu, on reçoit encore plus. Et c'est vrai que pour moi, je ne changerai rien de ma vie, quoi. Parce que c'est mes maîtres spirituels, ce sont ceux vers qui je vais, en fait. Et donc, c'est sans cesse un apprentissage, sans cesse nouveau, sans cesse incroyable. Et voilà, j'adore cette vie. S'oublier soi-même pour se donner complètement aux autres, quoi. Et c'est eux qui m'apprennent, c'est eux qui me disent qu'ils sont mes maîtres. Et donc, c'est une belle aventure.
Merci beaucoup Karine Salomé-Neveu, laïque consacrée dans la communauté de l'Agneau, qui compte aussi des religieux et religieuses. Merci d'avoir accepté de répondre à toutes nos questions et surtout de partager votre expérience, ce que vous êtes, vous sémez de l'espérance dans les camps de réfugiés.
Merci beaucoup, merci à vous.
Et à vous, fidèles auditeurs de la Radio Valeur Mulsien, merci infiniment d'avoir été avec nous et restez avec nous pour la suite de nos programmes. Les ondes de Mista. Mista, c'est un sobriquet, en même temps un mystère. Les ondes mystérieuses, c'est-à-dire les ondes mystérieuses du voyage. Mon émission va traiter les sujets liés à l'asile et l'immigration. Les ondes de Mista.